Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Conflits. Avant d'accueillir notre invité, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en kiosque notre dernier numéro dont le dossier est consacré à la guerre en Ukraine. Je vous encourage également à vous inscrire aux cours de conflits qui sont disponibles sur notre site. Pour seulement 26 euros, vous avez accès à 5 heures de cours en 12 vidéos sur un sujet précis, mais également à des cartes, à des graphiques, ainsi qu'à des documents. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à 3 cours, un cours d'introduction à la géopolitique donné par le rédacteur en chef de conflits Jean-Baptiste Noé, à un cours pour mieux comprendre le terrorisme donné par le géographe Daniel Dory, ainsi qu'à un cours sur l'islam et l'islamisme donné par le professeur Olivier Hahn. Vous inscrire à ces cours comme vous abonner à la revue Conflits est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à avoir accès gratuitement à ces podcasts que nous faisons. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un peuple qui vit à la jonction de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud-Est. Il est installé entre le sud de l'Afghanistan et l'ouest du Pakistan et composé de guerriers montagnards dont les malheurs et les fureurs ont bouleversé l'ordre du monde, caractérisé par la méfiance, le désir de vengeance, l'envie, l'avarice et l'obstination, mais également considéré comme hospitalier, épris de liberté, réfractaire à la supériorité d'autrui, soucieux de la famille et courageux. Il admet difficilement toute forme d'autorité, il n'aime pas être dirigé. Cette réserve à l'égard d'autrui se transforme en aversion s'il faut se soumettre à un chef d'une autre tribu ou d'un autre clan, et cela devient de la haine si le pouvoir appartient à un étranger, de surcroît non musulman, donc infidèle. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr du peuple Pashtoun. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui explique leur unité dans le temps? Quelles sont leurs coutumes et leurs structures sociales? Pourquoi le monde Pashtoun est-il devenu le réceptacle de tant de sortes de radicalisme? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Alain Lambal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes général deuxième section, spécialiste de l'Asie du Sud que vous avez longtemps habité et parcouru. Vous êtes actuellement directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, membre de l'Académie des sciences Outre-mer et enfin rédacteur au sein de la revue Asie 21. En 2018, vous avez publié aux éditions VA Presse un ouvrage intitulé « Les Pashtuns, un grand peuple sans pays ». Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous poser une première question, et cette question porte sur l'Asie du Sud. C'est une zone que le grand public occidental, et tout particulièrement le grand public français, connaît mal. C'est une zone qui est complexe et mouvementée. Comment la délimitez-vous et pourquoi est-elle pertinente comme objet d'étude géographique et bien sûr géopolitique?
Alors effectivement, il est bon de préciser d'abord ce qu'est l'Asie du Sud, puisque l'Afghanistan, en définitive, en fait partie. En fait partie, nous allons le préciser. Beaucoup de gens confondent, à vrai dire, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud, en fait, proprement dit, comprend 7 pays. 3 pays centraux, l'Inde, et à son ouest, le Pakistan, à son est, le Bangladesh. Ce sont vraiment les 3 pays principaux de l'Asie du Sud. À ces 3 pays centraux, principaux, s'ajoutent 2 pays himalayens, le Népal et le Bhoutan, et 2 pays insulaires, Sri Lanka et les Maldives. Ces 7 pays forment l'Asie du Sud, proprement dit. Mais on ajoute assez souvent, c'est le cas en principe de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on ajoute l'Afghanistan à ces 7 pays. Il est vrai que ces 7 pays plus l'Afghanistan forment une association qu'on en appelle en anglais en abrégé la SARC, qui veut dire South Asian Association for Regional Cooperation. Donc ces huit pays forment la SARC, et l'Asie du Sud donc comprend 7 pays proprement dit, plus l'Afghanistan. Mais l'Afghanistan, à mon avis, est plutôt un pays charnière entre l'Asie du Sud, entre l'Asie du Sud-Ouest et l'Asie centrale.
Alors simplement pour en finir avec l'Asie du Sud, pourquoi ces pays font-ils partie de la même zone ? Est-ce que c'est un aspect géographique ? Est-ce que c'est un facteur culturel commun qui les unit ? Pourquoi l'Asie du Sud finalement est-elle une région à part ?
Alors il y a une unité, je dirais, culturelle de toute l'Asie du Sud, en ce sens que certains grands empires, notamment l'empire d'Ashoka, couvraient la majeure partie de la péninsule indienne. Donc il y a une unité incontestable. Mais plus on va vers l'ouest, bien évidemment, nous avons affaire à des peuples relativement marginaux. Mais il y a une unité géographique également. C'est la péninsule indienne, donc, qui se trouve entre l'océan Indien et l'Himalaya. Et il y a également des points communs. Il y a des grands bassins fluviaux qui unissent tous ces pays, essentiellement le Gange, l'Indus, le Brahmapoutre, trois grands fleuves qui irriguent finalement la majeure partie de ces pays d'Asie du Sud. Il y a d'autres cours d'eau, bien évidemment, qui sont issus du Deccan, du plateau central. Voilà un petit peu, si vous voulez, l'unité finalement que l'on peut constater en Asie du Sud. Une unité culturelle qui remonte à des temps anciens. En plus de l'empire Ashoka que je citais, on pourrait évidemment citer l'empire moghol qui a dirigé la majeure partie de l'Asie du Sud, y compris d'ailleurs l'Afghanistan.
Alors revenons aux Pachtounes. Chez Conflit, nous aimons la géographie et la géographie humaine. Ma question est en deux temps. D'abord, d'où viennent-ils ? Est-ce que c'est un peuple autochtone ou est-ce qu'il s'agit d'envahisseurs qui sont arrivés à une certaine époque dans cette région ? Quelle langue parle-t-il ? D'où provient leur langue ? Quelle est sa racine ? Et ensuite, où habite-t-il aujourd'hui ? Quelle est la zone géographique ? Quelles sont ses spécificités qui expliquent aujourd'hui la singularité du peuple Pachtoun ?
Alors les Pachtouns ne sont pas un peuple autochtone, mais ils sont arrivés dans la région qu'ils habitent actuellement, que nous allons définir plus tard, il y a tout de même des milliers d'années. Probablement, les Pachtouns viennent d'Asie centrale. On imagine qu'ils peuvent venir dans une région située à l'est de l'Oural, mais on n'en est pas absolument certain. Mais cette migration s'est produite il y a plusieurs milliers d'années. Ces gens se sont installés donc dans ce qui est actuellement l'Afghanistan et le Pakistan, et ce sont des Indo-Européens. Ils parlent une langue qui est donc assimilée aux autres langues indo-européennes, au Dari en particulier, qui est la langue communément parlée en Afghanistan actuellement, Dari qui est issu en fait du persan. Alors ces gens-là actuellement donc peuplent essentiellement l'Afghanistan et aussi la partie occidentale du Pakistan. Mais originellement, il y a eu, à un certain moment de l'histoire, une certaine unité du peuple Pachtoun. Il y a eu un empire Pachtoun à la fin, on va dire, du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, qui rassemblait les contrées allant de la mer d'Arabie jusqu'à l'Himalaya. Et cet empire a été relativement éphémère, on va dire. Il a été supprimé et remplacé par un autre royaume, un autre empire, l'empire Sikh. Les Sikhs, qui sont bien connus, je crois, en France, ont conquis la partie orientale de la zone Pachtoun, grâce en particulier, d'ailleurs, à des officiers français. Le général Allard, en particulier, on peut visiter la tombe à Lahore. Alors, l'empire Sikh avait sa capitale à Lahore, et l'empire Sikh a donc conquis la partie orientale des Pachtouns. Alors pour répondre à votre question, où trouve-t-on les Pachtouns de manière plus précise ? On les trouve donc essentiellement en Afghanistan et de manière encore plus précise dans le sud et dans l'ouest de l'Afghanistan. On les trouve aussi au Pakistan. Pourquoi les trouve-t-on au Pakistan ? Bien parce que à l'époque britannique, les Britanniques ayant succédé aux Sikhs ont conclu un accord avec l'émir afghan de l'époque, qui était un Pachtoun. Et avec cet émir, donc les Britanniques ont défini la frontière qui existait à l'époque entre le royaume d'Afghanistan et les Indes britanniques. Et cette frontière qu'on appelle la ligne Durand, c'est le nom d'un fonctionnaire britannique. On aura l'occasion d'y revenir. Elle a été définie en 1893. Donc de ce fait-là, le Pakistan qui a hérité de l'Empire britannique en définitive a comme frontière donc la ligne Durand, et il y a des Pachtouns donc actuellement également au Pakistan. Et en fait, la majorité des Pachtouns maintenant se trouvent côté pakistanais. Il y a au total, pour les Pachtouns, on peut estimer que c'est une communauté d'environ 50-55 millions d'habitants. On ne sait pas trop parce que les recensements se font mal. D'ailleurs, il n'y a pas eu de recensement en Afghanistan depuis 1979. Et le recensement qui a eu lieu au Pakistan il y a quelques années n'est pas très fiable non plus. Donc, entre 50 et 55 millions de Pashtuns. C'est quand même pas mal. Les 5 millions kurdes, d'une certaine manière. Alors, ces gens-là sont donc répartis sur deux pays, je le dis. L'essentiel se trouve au Pakistan, vraisemblablement 35 millions de Pashtuns, à peu près, hein, essentiellement dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Et puis, il y a donc à peu près entre 15 et 20 millions, c'est, l'approximation est assez large, mais ce que je vous dis, les recensements ne se sont pas faits en Afghanistan, le dernier, je le dis, en 1979. Donc la fourchette basse, c'est probablement 15 millions de Pashtuns en Afghanistan, sur une population de 38 ou 40 millions. La fourchette très haute, ça pourrait être 20 millions. Donc au total, j'évalue la population de Pashtuns entre 50 et 55 millions. Alors, il est bon de voir aussi ce que ça représente comme pourcentage. Si les Pashtuns sont les plus nombreux au Pakistan, ils ne représentent qu'une faible partie de la population, car le Pakistan est très peuplé. Il y a 230 millions d'habitants probablement au Pakistan, et il y a, je l'ai dit, 35 millions de Pashtuns. Ça fait 37, ça fait 17%. Quoi. Alors qu'en Afghanistan, on estime le plus souvent que le pourcentage des Pashtuns est de 40-42%, mais certains spécialistes pakistanais bien informés m'ont dit qu'en fait, le pourcentage des Pashtuns en Afghanistan pourrait être bien supérieur, jusqu'à 62% m'a-t-on dit. Je ne sais pas trop. C'est pour ça que j'établis la fourchette entre 15 et 20 millions. Mais on ne peut pas savoir avec le scientifique.
Ces Pashtuns, tout comme les Sikhs que vous évoquez, donc cette population indienne qu'on connaît bien, notamment qu'on reconnaît avec son turban, sa grande barbe, etc., est un peuple de guerriers.
Absolument.
Les Indiens s'en souviennent bien, ils se souviennent des descentes historiques de ces raids guerriers de Mahmoud de Ghazni vers l'an 1000, de celle de Nadir Shah au XVIIIe siècle. La question que je voulais vous poser, alors on fait un léger saut dans le temps, c'est une question d'ordre plutôt scientifique. Comment avez-vous fait vos recherches dans ces zones tribales où être un voyageur français n'est pas forcément la chose la plus indiquée? C'est le moins qu'on puisse dire, ce sont des endroits dangereux, escarpés, difficiles d'accès, complexes en plus. Comment fait-on quand on est un scientifique français comme vous pour rencontrer les Pashtuns et pour les étudier?
Alors, ma découverte de l'Asie du Sud remonte aux années 60. J'ai eu la chance d'être affecté comme attaché militaire adjoint en Inde. Et dès cette époque-là, je me suis intéressé aux peuplades minoritaires, je dirais. Je m'étais intéressé en particulier aux Miso, Naga, qui peuplent le reste de l'Inde. Je m'étais intéressé aux Tamouls de Sri Lanka, et j'ai d'ailleurs fait une thèse de doctorat sur ce sujet, Tamouls de Sri Lanka. Et beaucoup plus tard dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être affecté comme attaché de défense, cette fois chef de la mission militaire à Islamabad. Et c'est là que je me suis intéressé de plus près aux Pashtuns. Alors quand j'étais en poste à Islamabad de 1992 à 1995, j'ai pu circuler des zones bien particulières Pashtuns, en particulier dans l'agence tribale de Khyber, qui se trouve entre Peshawar et la frontière afghane. Mais c'est après avoir quitté l'armée que je me suis intéressé de plus près à cette région, et grâce à des contacts personnels que j'avais établis pendant mon affectation à Islamabad, j'ai pu, assez facilement aller dans toutes les zones tribales pakistanaises qui étaient en fait très difficiles d'accès, comme vous l'avez souligné, quoi, parce que cela présente un certain danger, c'est vrai. Alors j'avais naturellement l'aval des services spéciaux pakistanais, bien évidemment, de l'armée pakistanaise, mais aussi des maliks, c'est-à-dire des chefs de tribus pakistanais. Et de ce fait-là, j'ai pu circuler dans les zones tribales pakistanaises et obtenir un certain nombre d'informations qui m'ont permis d'écrire ce livre.
Et vous avez toujours été bien accueilli?
J'ai toujours été bien accueilli, sans absolument aucun problème.
Tant mieux. Revenons en arrière. Historiquement, l'un des principaux jalons de l'histoire pachtoune, c'est évidemment leur islamisation. Comment s'est-elle passée? Est-ce qu'elle fut forcée ou est-ce qu'elle fut très bien acceptée? Est-ce qu'elle fut spontanée? Comment ces populations donc ont été islamisées, mais aussi comment l'islam a-t-il été pratiqué dans l'histoire? Et comment l'est-il aujourd'hui? J'aimerais évidemment qu'on parle à l'époque moderne, notamment de l'influence de l'école Deobandi, et puis de l'arrivée du wahhabisme et du mouvement taliban.
Alors, on peut citer quelques dates repères. Le début de l'islamisation de l'Afghanistan actuel, du Pakistan occidental si vous voulez aussi, remonte au 7e siècle avec les Arabes. C'est une islamisation extrêmement limitée. La véritable islamisation s'est faite au 10e siècle avec la migration de guerriers de langue turque qui avaient été eux-mêmes convertis. Alors au 13e et 14e siècle, il y a eu des phénomènes extrêmement importants qui se sont produits. C'est les invasions de Gengis Khan et de Tamerlan. Et les Pachtounes ont eu beaucoup de mal à s'en tirer, à récupérer finalement leur grandeur passée. C'est donc à partir du 10e siècle que la véritable islamisation s'est faite. Elle s'est maintenue donc malgré les massacres perpétrés par Gengis Khan et Tamerlan. Et au début du 16e siècle, bien il y a eu Babar, qui est le descendant de Gengis Khan et Tamerlan, qui est originaire de la vallée de Fergana, qui a traversé l'Afghanistan et qui a fondé en Inde le fameux empire moghol. Donc voilà l'origine finalement de l'islamisation dans cette région. Alors cette islamisation s'est poursuivie évidemment. Vous avez cité l'école des Obandi, bien évidemment. Il y a eu des formes extrêmement barbares de cette islamisation. Et les talibans actuels en sont précisément une émanation. Alors il ne faut pas confondre évidemment les Pashtuns avec les talibans. Tous les Pashtuns ne sont pas talibans, bien évidemment. Mais les talibans sont presque exclusivement Pashtuns. Pas totalement, mais presque exclusivement. Peut-être 95% des talibans sont Pashtuns. D'ailleurs, ça pose des problèmes actuellement à Kaboul avec le gouvernement que nous avons.
Quelle religion pratiquaient-ils avant l'arrivée de l'islam? Est-ce qu'ils étaient hindous? Est-ce qu'ils étaient plutôt de religion zoroastrienne comme les persans?
Ils étaient, je crois, plutôt animistes, il me semble. Hein, mais on n'a pas d'écrit, on n'a pas de certitude à ce sujet, quoi. Non, ils n'avaient pas été, comment dirais-je, hindouisés, sauf peut-être la partie occidentale du Pakistan, où il y a des sites hindous caractéristiques, notamment dans la région de Taxila, ça se trouve à l'ouest de Islamabad. Il faut savoir, par exemple, que Panini, le grand grammairien sanskritiste, celui qui a créé la grammaire sanskrite, était né et a étudié dans la région de Taxila, précisément, qui est en zone tamoule, en zone pashtoune, actuellement au Pakistan.
Vous expliquez aussi très clairement que le point d'inflexion de l'histoire pashtoune, la date phare, la date butoir, c'est 1893, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est la date de la création de la fameuse ligne Durand.
1893.
Oui, c'est ce que je disais, 1893. Pourquoi cette date est-elle si fondamentale là?
Alors cette date est fondamentale parce que elle a vraiment scindé la communauté tamoule en deux, pashtoune, pardon, en deux. Alors bien évidemment, cette ligne Durand, elle est poreuse, et elle est en fait totalement artificielle. J'ai eu l'occasion de me rendre jusqu'à cette frontière à plusieurs reprises. J'ai pu constater que certains villages même étaient divisés en deux. Une partie des villages se trouvait côté afghan, une autre partie des villages se trouvait côté pakistanais. Il y a des tribus qui sont totalement divisées. Et il y avait, parce que c'est moins le cas maintenant, des passages permanents de part et d'autre de la ligne Durand. Elle était totalement poreuse, les gens circulaient librement, les nomades circulaient. Il y avait des jirgas, c'est-à-dire des assemblées de villages qui se tenaient de manière commune de part et d'autre de la frontière. Mais ça a changé maintenant, du fait, on y viendra peut-être plus tard, du fait de la clôture par les Pakistanais de cette ligne Durand.
Dans quel contexte a-t-elle été créée? Comment a-t-elle été dessinée? Et pour quelles raisons? Dans quel objectif stratégique?
Oui, effectivement. Vous avez raison de poser cette question. Les Britanniques, qui avaient conquis donc la partie occidentale actuelle du Pakistan, le Baloutchistan, ce qu'on appelle actuellement le Khyber-Pakhtunkhwa, les Britanniques craignaient l'arrivée des Russes vers l'Asie du Sud. Effectivement, les Russes progressaient en Asie centrale, Samarkand, Tashkent, etc. Donc les Britanniques ont essayé de conquérir l'Afghanistan pour se prémunir de cette invasion possible, une invasion, à mon avis, très exagérée. Je crois que les Britanniques ont beaucoup exagéré le danger que représentaient les Russes. Ils ont utilisé cet alibi pour essayer de conquérir l'Afghanistan, à l'occasion de trois guerres d'ailleurs. La première guerre, 1838-1842, la deuxième, 1878-1880, et la troisième, en 1919. Ils se sont aperçus que c'était un pays ingouvernable, déjà à cette époque-là, et ils estimaient qu'il valait mieux faire de l'Afghanistan un pays tampon entre l'Empire russe et leur propre empire. D'où la nécessité de créer une frontière, et cette frontière a été la ligne Durand, qui n'a pas plu du tout, d'ailleurs, au Pachtoun. L'émir 7 afghan l'a signé, sans doute sans contrainte, mais quand même un peu, sans doute quand même avec un peu de contrainte. D'ailleurs, les Pachtounes n'ont pas du tout accepté cette frontière et ils se sont révoltés massivement 4 ans plus tard. En 1897, une révolte massive des Pachtounes que les Britanniques ont eu beaucoup de mal à réprimer. Et après, d'ailleurs, jusqu'à l'indépendance, il y a eu des révoltes permanentes qui ont obligé les Britanniques d'envoyer des dizaines de milliers d'hommes parfois pour réprimer ces mouvements. Ça n'a pas été sans mal.
Justement, donc 1893, création de la ligne Durand, 1897, révolte massive des Pachtounes contre cette ligne, 50 ans plus tard, 1947, partition de l'Inde et du Pakistan, cette ligne Durand n'est pas modifiée lors de la partition, le Pakistan, donc le nouveau pays, le pays des purs créé par Jinnah et la Ligue musulmane, intègre donc ces populations pachtounes, qui sont à l'est de la ligne Durand au sein du nouveau Pakistan. Comment s'est passée cette intégration? Est-ce que les Pachtounes se sont à nouveau révoltés contre, l'instauration, l'état de fait de cette ligne Durand? Ou alors ont-ils essayé de réunir un Pachtounistan ou de s'intégrer à l'Afghanistan? Comment ça s'est passé en 1947?
Au moment de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, en 1947, les principautés qui constituaient l'Inde, il y avait le territoire administré directement après les Britanniques, puis il y avait 500 et quelques principautés, et il y avait justement aussi ces tribus pachtounes, qui n'étaient pas vraiment des principautés, mais tout de même, elles étaient administrées de manière particulière, parce que les Britanniques avaient créé ce qu'ils appelaient à l'époque, en 1901, la province frontière du Nord-Ouest, quoi. Ils administraient directement, mais encore une fois, avec l'aide des chefs de tribu, qu'ils rémunéraient d'ailleurs pour avoir la paix, quoi. Alors, en 1947, les Pachtounes voulaient, à vrai dire, n'étaient pas du tout contents d'être incorporés par le Pakistan. Il y a eu, un simulacre de référendum, mais les Pachtounes ont refusé d'y participer. Ils auraient bien voulu, en définitive, avoir une certaine forme d'indépendance, quoi. Et l'Afghanistan a essayé, à cette époque-là aussi, récupérer ce qu'ils avaient perdu, donc en 1893, quoi. D'ailleurs, l'Afghanistan a été le seul pays du monde à ne pas reconnaître l'indépendance du Pakistan et l'appartenance du Pakistan à l'ONU en particulier, quoi. Donc, c'est un problème qui date de cette époque et qui perdure encore, quoi. Les Pachtounes se sont incorporés effectivement dans le Pakistan. Maintenant, ils sont plutôt bien incorporés. Ils ont des fonctions importantes, probablement plus important que on pourrait se l'imaginer en fonction de leur pourcentage de la population. Mais malgré tout, le problème de la frontière continue. Peut-être qu'on en parlera plus tard.
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Pakistan veut dire en ourdou Pakistan, Paki les purs, stan le pays des purs. Mm-hmm. Mais c'est aussi un acronyme.
Absolument.
Dont le A veut dire Afghania.
Absolument.
Qui est probablement pas toute l'Afghanistan, mais plutôt la zone pachtoune.
Oui, c'est ça.
Ce qui veut dire qu'il y avait également peut-être une revendication côté pakistanaise d'intégrer ces zones pachtounes au nouvel État.
Alors, là, on rentre dans l'histoire moderne, je dirais, dans l'actualité d'aujourd'hui. À la fin de mon livre, j'examine effectivement plusieurs scénarios. Le scénario d'un grand Afghanistan, c'est-à-dire la récupération par l'Afghanistan des zones pachtounes actuellement administrées par le Pakistan, c'est-à-dire la province Khyber-Pakhtunkhwa, mais aussi le Baloutchistan, car il y a des pachtounes en nombre assez important au Baloutchistan. Cette option d'un grand Afghanistan n'a aucune chance d'aboutir, car l'Afghanistan connaît les difficultés que nous connaissons. Et bien évidemment, le Pakistan est beaucoup plus puissant politiquement, malgré tous les problèmes qu'il connaît, hein, politiquement, militairement, que l'Afghanistan. Donc c'est totalement exclu. Par contre, un autre scénario possible serait un grand Pakistan, c'est-à-dire l'incorporation par le Pakistan des zones pachtounes. Ce scénario est plus vraisemblable. Je ne dis pas qu'il se produira à court terme, mais il faut l'envisager peut-être à moyen et long terme. Comment ça pourrait se faire ? Eh bien, actuellement, vous le savez, à Kaboul, il y a un régime taliban dur qui est en fait un régime pachtoun. Le nombre de ministres non pachtouns à Kaboul est tout à fait négligeable. Quelques-uns simplement, tadjiks, ouzbeks, etc. Donc c'est un gouvernement Pachtoun qui est en place à Kaboul. Ce qui pourrait se faire, c'est que les Pakistanais, en particulier l'armée pakistanaise, qui est en fait aux affaires, on va se faire fusion, pourrait fort bien conclure un marché avec les talibans, qui sont donc Pachtouns pour l'essentiel, en disant, écoutez, le sud et l'est et l'ouest de l'Afghanistan rejoignent le Pakistan, mais en échange, nous acceptons de faire des concessions idéologiques. Par exemple, vous pourriez fort bien poursuivre le régime de la charia dans toutes les régions pachtounes, les vôtres actuellement, et celles aussi du Pakistan. Et puis on pourrait éventuellement vous attribuer un ministère ou plusieurs ministères importants à Islamabad. C'est un scénario possible que l'on peut envisager. Après tout, les militaires pakistanais, qui ne sont pas nécessairement des musulmans extrémistes, sont tout de même des pragmatiques. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Zia-ul-Haq, qui était un militaire ayant pris le pouvoir, eh bien, les extrémistes musulmans étaient évidemment bien en cours, hein, car le président Zia-ul-Haq a favorisé l'islamisation à outrance de son pays. Donc on pourrait imaginer fort bien que les militaires pakistanais actuels épousent également la cause talibane, non pas parce qu'ils y tiennent particulièrement, mais pour des raisons de géopolitique, pour incorporer donc cette région orientale de l'Afghanistan. Scénario possible. Quant à la création d'un grand Pachtounistan indépendant, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est absolument impossible, car l'Afghanistan n'y tient pas, et surtout le Pakistan n'y tient pas non plus. La majorité des Pachtounes, je l'ai dit, se trouvent au Pakistan, c'est totalement exclu.
C'est très intéressant, parce que finalement, le fait que ce peuple ait été séparé entre différents pays depuis maintenant plus de 100 ans a eu évidemment des répercussions. On se rend compte entre vos différents scénarios que finalement il pourrait faire partie d'un pays ou de l'autre, mais que le nationalisme pachtoun n'est pas suffisant pour envisager un pachtounisson. Finalement, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui reste de l'identité pachtoun? Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore parler d'un peuple pachtoun malgré ces grandes séparations? Qu'est-ce qui fait l'unité de ce peuple?
Alors d'abord, il y a la langue, bien évidemment. Alors il y a des variantes dialectales, bien sûr. Il y a la langue, mais du côté afghan, le pachto, qui est la langue des pachtouns, on dit pachto, hein, non pas pachtoun. La langue pachtoun, donc le pachto, n'est pas la langue principale en Afghanistan. Même pour les Pachtouns. La langue principale, c'est le Dari, que nous avons évoqué plus tôt, qui est donc issu du persan. Côté afghan, le Pachtoun est parlé, bien sûr, par les Pachtouns, mais beaucoup de Pachtouns parlent aussi le Dari. Et les gens qui sont au pouvoir à Kaboul, les talibans ou les gens avant eux, parlent pour la plupart Dari. Et l'administration se fait en Dari. Côté pakistanais, c'est la même chose. Les Pachtouns pakistanais partent certes le Pachtoun, mais la langue principale, c'est l'ourdou. Donc, dans les deux cas, la langue Pachtoun, le Pachto, a un rôle finalement secondaire. Et ce qui unit finalement les Pachtouns, c'est leur histoire commune, et puis le fameux code du Pachtoun Wali que nous avons un petit peu évoqué. Alors, ce code du Pachtoun Wali, il est extrêmement difficile à définir parce qu'il est assez flou, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a quand même trois piliers, quoi. Il y a l'importance chez les Pachtouns de la terre, de l'argent, l'argent en tant que monnaie, hein, pas en tant que métal. Sinon, le terme plutôt, c'est le terme exact en Pachtoun, c'est l'or. Mais en fait, on veut dire de l'argent en la monnaie, quoi. Donc, les terres, l'argent et les femmes. Les femmes sont évidemment considérées comme des êtres inférieurs, incontestablement, dans la société Pachtoun, la société peut-être musulmane en général, mais encore plus dans la société Pachtoun. Le code Pachtoun Wali est plus sévère à l'égard des femmes que la charia. Donc il y a des points communs entre le Pachtoun Wali, le code Pachtoun Wali et la charia. La charia a influencé le code Pachtoun Wali, mais malgré tout, le code Pachtoun Wali subsiste. Mais de manière pas complète en définitive. Les Pachtouns utilisent ce code quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas trop, mais éventuellement, ils s'en écartent.
C'est un code écrit, c'est une tradition orale.
Non, c'est pas un code écrit. Il n'y a rien d'écrit. Les Pachtouns n'ont pas écrit leur histoire. Ce sont les Britanniques qui se sont intéressés pour la première fois à leur histoire, puis d'autres peuples après, d'autres Européens. Les Pachtouns eux-mêmes n'ont pas écrit. Ils n'ont pas de littérature. Ils n'ont pas non plus de sculpture. D'ailleurs, en matière artistique, ils n'ont pas de sculpture. Alors ça s'assimile à l'ensemble des musulmans, qui n'acceptent pas les images. Chez les Pashtuns, on ne voit pas, par exemple, de miniature persane. Persans ont été convertis à l'islam, bien évidemment, mais ça ne les a pas empêchés de faire de magnifiques miniatures, les miniatures mogoles en particulier. Quoi. Et chez les Pashtuns, on ne trouve pas ça du tout. Non, il y a encore une unité Pashtun incontestable du côté afghan, c'est sûr, et du côté pakistanais aussi. Ils ont leur propre province. Ils voudraient bien, d'ailleurs, les Pakistanais Pashtuns se regrouper. Vous savez, il y a eu une réforme en 2018. Hein. Jusqu'en 2018, les Pashtuns pakistanais n'étaient pas réunis au sein d'une même frontière, qu'on appelait avant la province frontière de Norvège, je le dis, et qui s'appelle maintenant le Khyber Pakhtunkhwa. Il y avait, en plus de cette province proprement dite, sept agences tribales qui couraient le long de la frontière afghane, le long de la ligne du rang. Puis, en plus des régions frontières, le terme est un peu ambigu, c'est des régions qui se trouvaient, parce que c'est supprimé, entre les agences tribales et la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa. Donc, tous ces agences tribales et ces ex-régions frontières ont été incorporées dans une province du Khyber Pakhtunkhwa, qui est maintenant donc plus vaste, à peu près 100 000 km². Mais les Pashtuns auraient bien voulu récupérer le nord du Baloutchistan, qui est peuplé essentiellement de Pashtuns. Car il y a beaucoup de Pashtuns là-bas, qui auraient bien aussi aimé rejoindre le Khyber Pakhtunkhwa. Ça s'est pas fait, pour différentes raisons. J'imagine peut-être parce que les Pendjabis ne le voulaient pas.
Il y a plus de Pashtuns que de Baloutch au Baloutchistan.
Alors, probablement qu'il y a une égalité entre les deux. On ne sait pas trop non plus, parce que les recensements, comme je vous l'ai dit, ne sont pas fiables. Mais ce qui est certain, c'est que la population Pashtun du Baloutchistan, surtout dans le nord, mais aussi dans la capitale Quetta, la proportion des Pashtuns est très importante. Et les Baloutches se préoccupent de ça. Quoi. Les Baloutches sont également très nationalistes.
Nos auditeurs comprennent bien, le Baloutchistan est donc cette région du sud ouest du Pakistan, entre l'Iran et le Pakistan, avec également une frontière avec l'Afghanistan, et qui se trouve donc juste en dessous des régions Pashtun au Pakistan.
Absolument.
Qui est également d'ailleurs pour les Pakistanais.
Bien sûr. C'est la province du Baloutchistan est la province la plus grande du Pakistan, mais aussi la moins peuplée en réalité. Quoi. Alors là, il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit avant, mais qu'il y a une communauté Pashtun très importante, mais alors éloignée de la frontière afghane. Cette communauté Pashtun importante se trouve à Karachi, qui est la capitale d'une autre province pakistanaise, le Sindh. Et Karachi est la ville Pashtun la plus importante du monde en réalité. Il y a probablement 4 millions, 5 millions de Pashtuns à Karachi. Et ça pose énormément de problèmes. Car il ne faut pas croire que les Pashtuns sont accueillis à bras ouverts dans le reste du Pakistan. Hein. Il y a des problèmes. Alors, les Pashtuns sont de plus en plus importants également au Pakistan, du fait des migrations non seulement internes, mais des migrations internationales. Du fait des événements en Afghanistan, à l'époque de l'invasion soviétique, entre 1979 et 1989, et puis après, l'époque des talibans, encore maintenant, il y a des gens qui quittent l'Afghanistan et qui viennent s'installer au Pakistan, dans la région évidemment qui leur sont voisines, où on parle la même langue, le Pashtun, mais aussi ailleurs, à Karachi, comme je le dis, et ailleurs au Pakistan. Et ça pose des problèmes. Contestablement, à Karachi, il y a des problèmes entre les Sindhis, les gens du coin, donc, et les Pashtuns. Il y a des problèmes aussi entre les Mouadjirs et puis les Pashtuns. Les Mouadjirs, c'est des gens qui sont issus de l'immigration au moment de 1947. Ce sont des musulmans qui étaient à l'époque dans la région du Pendjab indien et qui ont émigré vers le Pakistan, en particulier dans le Sindh. Quoi. Donc il y a des tensions importantes au Pakistan entre les Pashtuns et les autres communautés.
C'est d'ailleurs très intéressant car dans votre ouvrage, vous expliquez que justement cette migration des Pashtuns à l'international, notamment en Inde, à Calcutta, à Hyderabad et dans d'autres régions, mais également dans des zones tout à fait improbables comme le Suriname et d'autres endroits très éloignés, a une réelle importance. Et notamment, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que finalement, le peuple Pashtun bénéficie d'une sorte d'aura guerrière, et beaucoup d'Indiens notamment se revendiquent de cette origine Pashtun qui suscite une certaine fierté. Et j'ai trouvé très intéressant, je ne le savais pas, notamment le grand acteur bollywoodien, son nom m'échappe,
à Mumbai,
Shahrukh Khan, qui est d'origine Pashtun.
D'origine Pashtun, absolument. Et puis il y a des gens qui sont originaires de l'Inde, qui ont joué des rôles très importants dans le Pakistan indépendant. Hein.
Alors, depuis la fondation du Pakistan, donc on comprend que les Pashtuns étaient concentrés dans des zones tribales assez éloignées du cœur politique du Pakistan, même si à Karachi, il y en a beaucoup, comme vous venez de le mentionner. Quelle part les Pachtounes ont pris à la vie politique pakistanaise depuis l'indépendance et quelle part ils y prennent aujourd'hui?
Alors, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, le rôle que jouent les Pachtounes au sein du Pakistan est plus important qu'on ne pourrait l'imaginer étant donné leur pourcentage, 17% de la population. Ils ont un rôle très important. Je le cite dans mon ouvrage, il y a eu des chefs d'État d'origine Pachtoune, des généraux d'origine Pachtoune, et les Pachtounes pakistanais sont actuellement très bien intégrés au sein du Pakistan. Bien qu'il y ait des mouvements, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui pourraient inquiéter éventuellement le pouvoir central à Islamabad. Mais globalement, les Pachtounes jouent un rôle qui est nullement négligeable, un rôle qui est contesté, je l'ai dit, par les autres provinces, et en particulier par les Pendjabis, qui constituent la majorité de la population pakistanaise. Pendjabi, capitale Lahore, représente probablement 60% de la population du Pakistan. Et c'est peut-être ce qui explique que la partie nord du Balochistan, peuplée essentiellement de Pachtounes, n'ait pas été intégrée dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, parce que les Pendjabis voulaient conserver leur supériorité face aux Pachtounes, qui sont quand même craints.
Ils sont encore craints aujourd'hui.
Ils sont encore craints, c'est une nation extrêmement fière, qu'on peut assimiler aux Sikhs d'ailleurs. Hein. Les Sikhs en Inde, ce sont des gens, vous le savez bien, qui sont également martiaux, qui sont dynamiques. Beaucoup de points communs entre les Sikhs et les Pachtounes. Il faut d'ailleurs savoir que ce sont les Sikhs qui ont vaincu les Pachtounes. Hein. Car l'empire Sikh de Maharaja Singh, les Sikhs ont conquis donc Peshawar, quoi, la partie orientale des zones Pachtounes.
Avec des généraux français, si je me...
Avec le général Allard, le général Ventura en particulier. Le général Allard, qui est dans la tombe est à Lahore, je le citais, qui a épousé une princesse de Lahore, et cette princesse est enterrée à Saint-Tropez, curieusement, d'où est originaire le général Allard en réalité. Le général Allard est enterré à Lahore, et son épouse enterrée à Saint-Tropez.
Une question plus d'actualité, monsieur Lamballe, puisque nous arrivons petit à petit au terme de cette émission. L'actualité récente a remis au centre de l'attention les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan, avec les différentes tensions, les différents affrontements qui ont lieu à la frontière entre les deux pays. Et donc, nous sommes dans un contexte particulier qui est celui d'un côté de l'arrivée au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, avec l'instauration d'un État islamique, comme on le sait, et de l'autre, un bouleversement politique, le renversement du Premier ministre pakistanais Imran Khan il y a maintenant quelques jours, par une motion de censure du Parlement. C'est également deux pays fragilisés aujourd'hui, quand on considère la crise humanitaire affreuse que traverse l'Afghanistan et la crise économique que traverse le Pakistan de l'autre côté. Ce regain de tension frontalière dans ce contexte fragilisé, qu'est-ce qu'il exprime selon vous et pourquoi est-il fondamental? Pourquoi est-il important? Aujourd'hui, on a les yeux fixés sur l'Ukraine. Pourquoi il faudrait aussi qu'on regarde du côté de la ligne dure, finalement?
Alors effectivement, l'actualité nous porte actuellement, bien sûr, vers l'Ukraine. Une actualité chasse l'autre. Mais je crois que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, le problème Pachtoun reprendra son importance sur le plan de l'actualité. Il l'est déjà de certaine manière, mais il est occulté par l'Ukraine. On sait très bien que tout ce qui se passe en Afghanistan est extrêmement préoccupant. Quoi. Ce pouvoir taliban, ce pouvoir Pachtoun taliban, préoccupe les voisins, les pays voisins, bien évidemment, et en fait le monde entier. Alors, les Pakistanais ne sont pas vraiment à l'origine du mouvement taliban afghan. Mais les Pakistanais ont tout de même soutenu ce mouvement, incontestablement. Ils l'ont alimenté, ils l'ont aidé, ils l'ont favorisé. Et ils ont aidé la prise de pouvoir par ces talibans à Kaboul. Ils pensaient être sécurisés du côté occidental pour concentrer leur attention face à l'Inde, qui est l'ennemi traditionnel, en définitive. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des attentats qui se multiplient actuellement dans les zones Pachtounes, mais ailleurs aussi au Pakistan, des attentats fomentés par ce qu'on appelle le TTP, le Tehrik et Taliban Pakistan, sont les talibans pakistanais, et ces talibans pakistanais, en réalité, bénéficient de zones de repli, de refuge, côté afghan. Et ça, les Pakistanais ne s'y attendaient pas du tout. Quoi. Donc il y a une animosité qui continue de se manifester entre Kaboul et Islamabad. Et cette animosité se manifeste en particulier aussi au sujet de la fameuse ligne du rang. C'est encore un problème d'actualité. Aucun gouvernement afghan n'a reconnu la ligne du rang avant les talibans, et y compris actuellement, le régime taliban à Kaboul ne reconnaît pas la ligne du rang. Pour se prémunir de ces attaques venant de l'Afghanistan, le Pakistan a érigé au cours des années passées une clôture tout le long de la frontière, tout le long de la ligne d'Iran, 2600 kilomètres. Une clôture d'ailleurs qui est en train de se prolonger du côté iranien aussi, car il y a des problèmes également avec l'Iran, avec les Baloutches cette fois, pas avec les Pachtounes. Donc cette clôture, qui est pratiquement achevée maintenant, hein, côté pakistanais donc, hein, est totalement condamnée par les talibans à Kaboul, et les Pachtounes, aussi bien côté afghan, côté pakistanais, sont eux-mêmes très mécontents, la population locale, car ils ne peuvent plus, évidemment, traverser la frontière librement comme ils le faisaient auparavant. La frontière était avant poreuse, elle n'est plus maintenant. Il y a des points de passage obligés, mais qui sont contrôlés par les forces paramilitaires pakistanaises ou les forces armées pakistanaises elles-mêmes. Donc il y a un mécontentement très très net au niveau gouvernemental et au niveau également des populations locales. Donc il pourrait fort bien avoir une conflagration qui se produise. Alors bien évidemment, sur le plan militaire, les Pakistanais sont beaucoup plus puissants. Il n'y aura pas de conflit interétatique. Le Pakistan gagnerait, incontestablement. Mais il peut y avoir une multiplication des actes terroristes qui compliquerait la situation de manière énorme au Pakistan même, quoi.
Est-ce qu'on peut parler d'un revers de bâton? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que tous les observateurs internationaux depuis un certain nombre d'années, et particulièrement depuis l'été dernier, expliquent que ce sont les services secrets pakistanais qui ont formé les talibans et qui tiennent en grosse partie le pouvoir afghan à Kaboul. Finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça paraît, et que finalement, les Afghans gardent une certaine indépendance vis-à-vis de leurs grands frères pakistanais, et même peuvent constituer maintenant une menace dans ces zones pachtounes au nord.
Bien sûr.
Et est-ce que c'est un revers pour les forces pakistanaises, ou est-ce que au contraire, ils vont finir par obtenir gain de cause?
Non, c'est un revers pour les forces pakistanaises. Alors, vous avez cité les services de renseignement pakistanais, l'ISI, évidemment, l'Inter Services Intelligence. Alors, bien évidemment, l'ISI est à la manœuvre, les militaires sont à la manœuvre. Ils sont extrêmement inquiets, car il y a une collusion idéologique entre les talibans afghans et les talibans pakistanais. Ils ont la même idéologie. Les uns comme les autres veulent créer un régime basé sur la charia. Alors, les talibans, côté afghan, ont réussi. Il y a un régime basé sur la charia à Kaboul, dans l'ensemble de l'Afghanistan, et les talibans pakistanais voudraient bien faire la même chose. Alors jusqu'à maintenant, les mouvements islamistes, les talibans en particulier, ne parlaient pas du tout d'autonomie, ne parlaient pas du tout d'indépendance des régions pachtounes. Ils étaient concentrés sur l'idéologie. Les talibans pakistanais voulaient essentiellement imposer la charia dans les régions pachtounes, mais éventuellement sur l'ensemble du Pakistan. Mais maintenant, il y a des gens parmi les talibans qui parlent également de nationalisme pachtoun. Le nationalisme pachtoun était en fait en berne depuis pas mal d'années. Je vous l'ai dit que les pachtouns pakistanais étaient très bien intégrés dans la société pakistanaise, ils réussissaient bien. Mais malgré tout, il y a maintenant un mouvement qui s'appelle le Pakistan Tahfouz Movement, qui veut dire Tahfouz Movement, ça veut dire mouvement pour la protection des Pashtuns. C'est un mouvement, a priori, qui n'est pas politique, qui se résumait à la défense des droits des Pashtuns. Mais maintenant, il y a, semble-t-il, une collusion entre ce mouvement parapolitique et les talibans pakistanais. Donc c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'ai appris récemment que les Pashtuns, qui font partie de ce mouvement, ont créé en fait un parti politique, j'ai oublié le nom, mais donc il y a peut-être une collusion possible entre les idéologues et les nationalistes. Si les idéologues talibans pachtounes et les nationalistes pachtounes se réunissent, ça devient extrêmement dangereux, quoi. Jusqu'à maintenant, le gouvernement à Islamabad a essayé de dissocier les deux, de combattre l'islamisme, parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure façon finalement de ne plus parler de nationalisme. Et maintenant, si les nationalistes et les idéologues se réunissent, ça devient très compliqué. Pareil au Baloutchistan, d'ailleurs.
toute dernière question. On aimerait pouvoir en parler pendant des heures, mais malheureusement, il va falloir qu'on termine cette émission. Dernière question. Qu'est-ce que votre œil de spécialiste, qu'est-ce que votre expérience vous dit, qu'est-ce que vous prévoirez pour les prochaines années, peut-être pour les prochaines décennies, entre ces grands scénarios dont vous parliez tout à l'heure, le grand Pakistan, le grand Afghanistan, un Pachtounistan, et maintenant les tensions qu'on vient d'évoquer. Quelle prospective, en quelques mots, vous pourriez donner pour les prochaines années ?
Alors, le scénario d'un grand Pakistan n'est pas du tout écarté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, je crois que les problèmes essentiels qui vont se poser, surtout du côté pakistanais, c'est l'explosion démographique chez les Pachtounes, d'une part, et dans l'ensemble de la population. Et ce sera probablement le défi majeur de ce pays à l'avenir, qui aura certainement bien du mal à nourrir sa population. Et on peut aboutir à un conflit, des conflits intérieurs majeurs, à cause de l'inadéquation des ressources en eau en particulier, et de la population. Ça concerne les Pachtounes, mais ça concerne l'ensemble de la population. Alors ces problèmes ethniques auront de l'importance, mais ils seront peut-être dépassés, submergés par ce problème fondamental de survie dû à un manque d'eau. Et je crois que ça, c'est un phénomène capital. Le problème d'eau, d'ailleurs, concerne également les relations entre les deux pays, car les Pachtounes habitent essentiellement dans la partie rive droite de l'Indus. Il y a 9 cours d'eau communs entre l'Afghanistan et le Pakistan, et il n'y a aucun accord qui a été conclu entre les deux pays dans ce domaine-là. Donc vous voyez que là aussi, ça va... remet pas mal, me semble.
Eh bien, merci beaucoup, Alain Lamballe, d'abord d'avoir accepté favorablement notre invitation et pour cette plongée dans le monde pachtoun qui était absolument passionnante. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver en kiosque le dernier numéro de Conflit, dont le dossier est consacré à la guerre en Ukraine. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos podcasts sur toutes les plateformes internet disponibles sur notre site et sur l'ensemble des plateformes comme Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, etc. Je vous remercie de votre fidélité et vous retrouverez pour un prochain podcast la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.